Voilà. Alors, ce matin, on commence une nouvelle section dans le livre d'Exode. On arrive dans la section des 10 plaies d'Égypte. Un commentateur biblique que j'aime beaucoup, Alec Motyer, résume toute cette grande section-là. Ça va aller jusqu'au chapitre 11. On est dans Exode 7, on va aller jusqu'au chapitre 11. Et il résume toute cette section-là en disant, c'est « God's word, resisted and irresistible ». La parole de Dieu à laquelle on résiste, mais à laquelle on ne peut pas résister. Parce que ce récit-là des plaies, bien c'est Dieu qui donne des directives, Dieu qui parle à Moïse, Dieu qui parle au peuple d'Israël, Dieu qui parle aux Égyptiens, à Pharaon, qui donne des directives. Et on va voir vraiment une confrontation entre Pharaon et l'Égypte qui s'oppose à la volonté, à la parole de Dieu et qui ne peut pas, en fin de compte, s'opposer à la fin. Donc, il est irrésistible parce que personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu va toujours accomplir ses desseins comme il le désire. Ce matin, on va s'arrêter sur quelques versets. On va lire un petit peu plus longuement. Caroline va venir nous lire ça. Mais nous, on va s'attarder surtout sur les versets 8 à 13. Les versets 8 à 13 servent en quelque sorte d'introduction à toute cette longue section-là. On pourrait appeler ça un prologue. Parce que dans ces quelques versets-là, on voit l'enjeu qui va se jouer et on voit un peu la fin de la trajectoire. Dans ces quelques versets-là, on voit deux trajectoires qui se dessinent. Il y a une trajectoire divine. On voit où Dieu s'en va et on voit où ça va aller. Mais on voit aussi des trajectoires de vie humaine. Une qui s'oppose à Dieu et une qui vient vraiment se marier à la trajectoire de Dieu. Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire. Littéralement, c'est ça. Et on va voir un individu qui décide de se confronter à cette trajectoire divine que Dieu est en train de dresser, et on va en voir un autre qui a décidé d'embrasser cette trajectoire-là. Et c'est vraiment de belles images pour nous parler à nous, parce que nos vies actuellement, la tienne, la mienne, chacune de nos vies ont une trajectoire. Si vous regardez où est-ce que vous êtes actuellement dans la vie, vous vous projetez dans l'avenir, vous dites, si la tendance se maintient, ça devrait aboutir là, cette histoire-là. Mais ce matin, on a l'occasion d'aller voir deux personnes, un qui a décidé d'embrasser la trajectoire de Dieu, de venir marier sa vie au projet de Dieu, et un autre qui a décidé de s'opposer. Et on a même la fin de sa trajectoire qui est annoncée déjà dans ce passage-là. On va aller dans la prière ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on vient devant toi, reconnaissant que tu es Dieu. Reconnaissant que toi seul es Dieu, reconnaissant que toi seul es véritablement au contrôle de la trajectoire de ta gloire, de l'histoire que tu écris, du destin de l'humanité, du destin de l'univers. Seigneur, on veut reconnaître ce matin que c'est toi seul qui es tout-puissant et souverain, Seigneur. Mais en même temps, on veut reconnaître humblement que nous avons des responsabilités, une responsabilité sur la trajectoire de notre propre vie, Seigneur. Et je te prie de venir nous parler de toi et de nous, de ta gloire, de ta majesté. Et Seigneur, viens nous donner l'intelligence d'examiner nos propres voies pour voir, Seigneur, si nous avons embrassé l'histoire de ta gloire ou si nous cherchons à écrire l'histoire de notre propre gloire. Viens nous parler, viens nous rencontrer ce matin, Seigneur. Nous attendons impatiemment que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous par ta parole, parle-nous par l'exposé, Seigneur, de ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Bon matin. Donc, la lecture ce matin va être dans Exode, chapitre 7, les versets 1 à 13, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode, chapitre 7, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle, tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit.
Merci, Caroline. OK, qui a déjà joué au golf? Juste lever la main. Quelques personnes. Qui a déjà joué au bowling? OK, vous savez c'est quoi? OK. Alors, ceux qui ont joué au golf, ceux qui ont joué au bowling, gardez la main levée. Qui a déjà joué, à défaut d'aller jouer au golf, au mini-pot? Ouais? Levez la main. Pas mal tout le monde, hein? Moi, je suis pourri au golf. Fait que j'ai juste joué quelques fois dans ma vie. Puis tu sais, vous savez ce que ça veut dire, slicer? Hein? Ça, c'est frustrant. Tu es là, tu t'en vas, puis tu sais, tu fais un coup qui a de l'allure, tu en fais un autre, puis ta balle, ta voix partir, puis tu dis, oh, catastrophe, elle vient de partir comme ça. La même affaire au mini-pot. Tu sais, tu es là, puis tu prends ton temps, tu te dis, regarde, il y a comme, il y a 12 pouces. Tu sais, il y a 12 pouces entre ma balle et le trou, c'est sûr que je me rends. Tu prends ton temps, tu t'ajustes, puis ta voix aller, puis ta voix aller, puis tu dis, oh. Des fois, c'est ça, hein? On regarde les choses, il y a une trajectoire, puis tu dis, « Oh! La catastrophe est annoncée, tu le sais que ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Ceux qui suivent les élections depuis des années, Radio-Canada a une expression lorsqu'il y a des soirées électorales. Hein? Il y a un moment où il annonce, « Radio-Canada a une annonce à vous faire, si la tendance se maintient. » Mais ça va comme ça dans nos vies aussi. On regarde certains domaines dans nos vies, puis on dit, « si la tendance se maintient. » Des fois, c'est réjouissant, des fois, ça fait peur, tu sais. Mais dans le passage de ce matin, il y a deux trajectoires qu'on voit. Il y a une trajectoire divine. Dieu est en train de tracer sa trajectoire et il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui va pouvoir faire dévier Dieu de sa trajectoire parce qu'il est Dieu. Lui est en train d'écrire sa trajectoire. C'est ça qu'il va déclarer dans ce texte-là. On va le voir ensemble. Mais il y a des trajectoires de vie humaine aussi. Et là, nous, on a un choix à faire. Quand tu regardes l'avenir, quand tu regardes devant toi, c'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent dans une vie qui viennent bouleverser une trajectoire, mais bien souvent, on peut regarder vers l'avenir. Puis on a une idée où ça s'en va. Quel que soit notre âge, hein, que tu aies 13 ans ou que tu aies 93 ans, il y a une trajectoire. Puis la fin, on la connaît pour tout le monde. On va comparaître devant Dieu un jour lorsque le Seigneur va venir nous chercher. Ça, c'est certain. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Dieu continue à écrire l'histoire de sa gloire. Et il revient à chacun de nous de choisir si la trajectoire de notre vie va s'opposer à celle de Dieu ou si elle va l'embrasser. Je répète ça? Dieu continue à écrire l'histoire de sa gloire et il revient à chacun de nous de choisir si la trajectoire de notre vie va s'opposer à celle de Dieu ou si elle va l'embrasser, si elle va entrer dans cette trajectoire de la gloire de Dieu. Alors, premièrement, trajectoire divine. Versets 9 à 12, si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle, tu diras à Aaron, parce que là maintenant, Moïse est un peu comme Dieu qui parle à son prophète Aaron. C'est vraiment une super belle image. Tu diras à Aaron, prends ta verge, le bâton de berger, qui est en fait le bâton de berger de Moïse, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. C'est la deuxième fois que c'est clair que Moïse fait exactement ce que Dieu a ordonné. Jusqu'à date dans le récit, ça ne s'est pas passé souvent, mais c'est ça qui est écrit ici. « Firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages, les enchanteurs, les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et ils devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Alors, quelques explications sur le passage, juste pour comprendre ce qui est en train de se passer ici. Mais comme je l'ai dit, c'est la deuxième fois, juste quelques versets plus tôt, pour une première fois, il est écrit « Moïse fit exactement ce que Dieu avait dit ». Parce que la relation entre Moïse et Dieu, ça n'a pas tout à fait bien commencé, tu sais. Dieu fait quelque chose pour Moïse qu'il a fait pour personne ici, je présume, vous n'avez pas eu de buisson ardent, des apparitions, des choses comme ça. Dieu fait ça pour Moïse, parle à Moïse. Première conversation, Moïse commence à argumenter avec Dieu. Ça ne part pas bien. Puis à chaque fois que Dieu va rajouter quelque chose, qu'il va demander quelque chose à Moïse, Moïse est toujours en train de débattre. Même Dieu va s'irriter contre lui. À un moment donné, il m'a dit, Moïse va dire, non, mais envoie qui tu veux, mais ça veut dire, envoie n'importe qui d'autre. Puis, là, Moïse, puis Dieu se fâche à ce moment-là. Mais on voit Moïse maturer, on voit Moïse grandir. Et là où on arrive dans le récit, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura jamais de rechute, hein? Si vous connaissez bien l'histoire de Moïse, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura jamais de rechute, mais là où on est rendu dans le récit, Moïse fait la volonté de Dieu. Il fait exactement comme Dieu lui dit de faire. Et puis ce bâton-là qui est là, bien, comme j'ai dit, c'était un bâton de berger. Je veux dire, le bâton, on l'a vu la première fois, lorsque Dieu est apparu pour la première fois à Moïse. Puis là, Moïse a commencé à dire, « Oui, mais je suis qui, moi? » Il dit, « C'est un bâton dans tes mains, jette-le par terre. » C'est un bâton de berger. Il était berger, il s'occupait des brebis. Ça prenait ça de temps en temps pour s'occuper d'une brebis, un bâton. C'est un bâton de berger très, très simple. Un vulgaire outil de berger. Et Dieu sait que les Égyptiens n'avaient pas beaucoup de respect pour les bergers. On y revient tantôt. Mais c'était simplement un bâton comme ça. Et lorsqu'il jette le bâton par terre, la majorité des traductions disent que c'est un serpent qui est apparu. C'est quand même intéressant, j'aurais aimé ça être là parce que ce n'est pas le même mot qui est utilisé précédemment. C'est la troisième fois que le bâton se change en serpent. Pour la première fois, il va utiliser un autre mot qui est le même mot qu'on trouve dans le livre de Job pour le monstre marin. Fait que c'était une bête effrayante qui ressemblait à un serpent, un lézard, on ne sait pas exactement c'est quoi. Mais c'était quelque chose d'impressionnant qui s'est passé là. Dieu fait un miracle et ça va se transformer en serpent. Maintenant, on va revenir sur la place des divinités en Égypte. Mais ce que Pharaon fait, parce que Pharaon avait commencé en disant, « Oui, mais qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que je vous laisse partir? » Puis là, dans le fond, c'est un combat de coq, c'est une démonstration. « Mon Dieu est plus fort que le tien, ton Dieu est plus fort que le mien. » C'est ça qui est en train de se passer. Fait que là, Pharaon, il dit, « Ben oui, faire un serpent. » Mes magiciens font ça tout le temps. T'sais. Fait qu'il fait venir ses enchanteurs, ses sages, ses magiciens. Et lorsqu'on parle de sagesse en Égypte, c'est toujours relié à la divinité, c'est toujours relié à des éléments ésotériques, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment ces magiciens-là avaient un pouvoir ou est-ce que c'était un truc de magicien? C'est impossible de le déterminer. Mon impression, c'est qu'ils ont fait quelque chose de surnaturel. C'est mon impression. Et on sait qu'il arrive qu'il y a des choses surnaturelles qui sont faites non seulement par les serviteurs de Dieu, mais le diable existe aussi. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un truc? On ne le sait pas. Mais Dieu voulait que les choses soient claires. Son serpent a mangé les autres. Ça a été clair. Et dans le fond, ce petit épisode-là, qui se passe là, peut-être que, je ne sais pas, il y avait 30-40 personnes qui étaient présentes. On n'est pas devant tout le peuple et il n'y a pas d'incident sur tout le peuple. Mais cet épisode-là est en train d'annoncer un conflit entre Dieu et les dieux d'Égypte. Est en train d'annoncer un conflit entre Israël et les Égyptiens. Est en train d'annoncer un conflit entre Dieu et Pharaon. Et Dieu est en train d'annoncer l'issue du conflit. C'est correct, tu veux t'opposer à moi, voici comment ça va se terminer. Mon serpent va manger tous les autres. Et le passage, cette section-là se termine avec Pharaon qui choisit de s'opposer à Dieu. Son cœur s'endurcit, il dit « je ne veux rien savoir ». Pourtant, le message était clair. Et donc, on a une trajectoire annoncée non seulement sur l'issue de cette guerre-là, de ce conflit-là entre Dieu et les dieux égyptiens, mais on a l'issue aussi de la vie de Pharaon qui nous est annoncée, parce que ça va mal se terminer pour lui. Et ce que Dieu est en train de démontrer dans ce passage-là, c'est qu'il y a un seul Dieu. Les hommes auront beau s'inventer, se créer des dieux, Les hommes, Dieu les a créés avec énormément d'imagination, puis à partir du moment où on rejette notre Créateur, notre imagination part dans toutes les directions, et le diable se complaît là-dedans, parce qu'il va nous aider à concevoir des idoles, des faux dieux, n'importe quoi qui va nous distraire de Dieu. Mais Dieu veut faire la démonstration qu'il y a un seul Dieu. Faire sortir son peuple du pays d'Égypte, Dieu aurait pu le faire simplement, là. Je veux dire, il aurait pu passer à la 10e plaie en partant. Les Égyptiens auraient dit, OK, vous pouvez sortir. Pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça? Pourquoi est-ce que cette mise en scène? C'est parce que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de parler aux Égyptiens. Dieu est en train de parler aux Israélites. Dieu est en train de nous parler à nous. Et il est en train d'établir un point, de faire une démonstration. Il y a un seul Dieu. Je ne sais pas dans quel Dieu tu crois. Je ne sais pas si tu crois dans le Dieu qui se révèle dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Mais ce que Dieu est en train de dire ici, c'est qu'il y a un seul Dieu, qu'il existe, qu'il est vivant et qu'il est incomparable. Pharaon avait dit dans Exode 5, verset 2, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Bien, Dieu va lui faire connaître qui est l'Éternel. Ça va lui coûter la vie à Pharaon. Dieu va lui faire connaître. Tu veux savoir c'est qui l'Éternel? Je vais te faire connaître l'Éternel. Jusqu'à ce que ton peuple tremble de connaître l'Éternel. Dans Exode 23, alors que Dieu va donner sa loi au peuple d'Israël, on réalise que c'est un principe sacré dans notre rapport avec Dieu. Dans Exode 23, Dieu va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et les Écritures nous apprennent que, en fait, les Israélites ont quitté l'Égypte en amenant des dieux. Ils ont gardé des dieux égyptiens dans leur culte, dans leur adoration. On va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais pour Dieu, c'est un principe sacré. Il n'y a un seul Dieu et je ne tolérerai pas qu'il y ait d'autres dieux devant ma face. On lit dans Ésaïe 42:8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et je pourrais prendre le temps de faire tout un argument pour dire que ceci est raisonnable, que Dieu n'est pas comme toi puis moi. Tu sais, si moi je suis ici en avant puis je dis, « Il n'y a aucun autre homme comme moi. » Ça ne va pas bien, tu sais. Je pourrais prendre le temps de faire tout l'argument logique, sensé, raisonnable, pour dire, oui, mais si Dieu est le seul Dieu, si c'est lui qui a créé l'univers, la meilleure chose qu'il peut faire pour toi, c'est t'aider à réaliser qu'il est le seul Dieu. Parce que je veux dire, tu peux avoir une statuette dans ton salon puis la remercier pour l'oxygène que tu respires, mais si ce n'est qu'une statuette, c'est Dieu que tu veux adorer. Parce que c'est lui qui te donne la vie. Et c'est lui qui va t'enlever la vie à la fin de tes jours aussi. Il y a un seul Dieu. Et c'est pas un égo trip de la part de Dieu. C'est Dieu qui mesure avec vérité sa personne et qui veut ton bien et qui veut que tu connaisses la vérité. Dieu ne veut pas nous laisser dans le mensonge. Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire. C'est ça toute la Bible. Toutes les Écritures, toute l'histoire, tout l'univers. C'est l'histoire de la gloire de Dieu. Nous pensons qu'on est là sur la terre pour écrire notre histoire. Hein, c'est ça qu'on est tenté de croire. Même c'est ça qu'on te dit. Il faut que tu t'inventes, il faut que tu crées ton histoire, il faut que tu écrives ton histoire. Tu as du potentiel, il faut que tu ailles au maximum de ton potentiel. Bien, c'est pas faux. C'est pas faux. On écrit tous notre histoire, on prend des décisions. Tu as pris des décisions cette semaine qui sont en train d'écrire ton histoire. Peut-être que tu es en train de chercher dans quoi je vais aller étudier, c'est quoi mon avenir, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vends ma maison, est-ce que je suis rendu là dans ma vieillesse, puis faut que je passe à une autre étape. Tu es en train d'écrire ton histoire. Mais ce que les Écritures nous disent, c'est qu'il y a une histoire qui supplante toutes ces histoires-là. Et il revient à chacun de décider si mon histoire va venir s'harmoniser avec l'histoire de Dieu ou si je vais être en conflit avec l'histoire de Dieu. Parce que Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire. Quand tu regardes un coucher de soleil, Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire. Quand Dieu te donne d'avoir un nouveau-né dans tes bras, Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire, pas la tienne. La sienne, c'est lui qui a créé cet enfant-là. Quand Dieu te donne des belles soirées avec des amis où vous avez du plaisir, Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui te donne des amitiés. Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire. Amen. Vous avez le droit de dire amen ici, c'est permis. Ça peut même m'encourager. Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire. Et cette histoire-là est plus importante que la tienne puis la mienne. Ce qu'on voit dans ce récit-là, alors que j'ai des individus, j'ai des personnes, peut-être pas comme toi et moi, parce que j'ai un pharaon puis j'ai Moïse, ils sont quand même spéciaux, mais je veux dire, c'est des hommes, c'est juste des êtres humains quand même. Fait que j'ai des individus, puis on va voir leur histoire à eux. Mais dans ces quelques versets-là, on voit leur histoire à eux et on voit l'histoire de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous révéler dans ce passage-là qu'il y a un conflit cosmique entre Dieu et tous les faux dieux, entre Dieu et le diable. Littéralement, c'est ça qui se passe. Et c'est ce que Dieu va déclarer dans le livre d'Exode. Dans Exode 12:12, on va le voir un peu plus loin, Dieu va dire, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Un conflit cosmique où Dieu est en train de faire la démonstration qu'il y a un seul Dieu qui existe, et c'est l'Éternel. Il est incomparable. Et il revient à chacun de nous de décider si on va marier la trajectoire de notre vie avec la sienne, avec l'histoire de sa gloire, ou si on va être en conflit avec lui. Mais il y a un conflit, et on doit choisir notre camp. Dans le passage, il est question du bâton du berger. Hein? Puis là, les magiciens arrivent avec des bâtons. Puis, dans la série, on va développer un peu, on va démontrer comment Dieu utilise l'ironie pour démontrer sa supériorité sur les dieux égyptiens. Et chez les Égyptiens, le bâton, c'est quelque chose d'important. Le bâton de berger, on a des images ici, mais ça ici, c'est un bâton de berger. Et puis ça, c'est un flagrum. Et puis le pharaon avait toujours des bâtons comme ça. Osiris est illustré aussi avec ça. Puis c'est un bâton de berger. Et ça représentait le pouvoir des divinités qui était donné au pharaon. En fait, le pharaon était un dieu aux yeux des Égyptiens, parmi les dieux, un petit dieu, vous me direz, mais un dieu littéralement, un régent parmi les dieux. Et il avait ces bâtons-là. Et ces bâtons-là, selon les croyances des Égyptiens, avaient des pouvoirs. C'était des espèces de magic wands, c'était des bâtons magiques qui avaient des pouvoirs. Et celui-là était vraiment un bâton de berger. Et ce que Dieu fait ici, Dieu est en train de dire, attendez un peu, vous pensez que vos dieux sont puissants. Bien, là, je vais vous ramener plus tôt dans l'histoire biblique. Ce qui fait qu'Israël est en Égypte, le peuple d'Israël est en Égypte, c'est que beaucoup plus tôt dans leur histoire, des frères tordus avaient vendu le plus jeune de leurs frères, avaient vendu Joseph, et Joseph s'était retrouvé en Égypte. Il y a eu une énorme famine. Et puis sa famille a dû se rendre en Égypte pour demander à avoir de la nourriture. Je fais ça court, d'accord? Et là, Joseph va intercéder. Joseph, qui est maintenant dans une position d'autorité, va aller demander à Pharaon, il va lui dire, « Est-ce que ce serait possible que ma famille descende ici? » Ils n'ont pas 3-4, ils ont une bonne gang. « Est-ce qu'ils pourraient venir s'établir ici? » Et puis là, Pharaon, qui a élevé Joseph en position d'honneur, lui dit, « Écoute, non seulement fais-les venir, mais établis-les où tu veux dans le pays. » Joseph, qui était un homme brillant, se disait, « Ouais, mais là, si je les fais venir puis je leur donne les meilleures places, les Égyptiens vont les haïr. » Puis, je veux dire, ma famille, c'est des bergers. Fait qu'on va les envoyer vivre dans un secteur de l'Égypte qui est le secteur des bergers parce que, et littéralement, c'est ça qui est écrit dans le texte, Joseph savait que pour les Égyptiens, c'était un job méprisable. C'est un travail, c'est une vocation méprisable, celle d'être berger. Donc, je vais les envoyer là. Personne ne va leur en vouloir. De toute façon, personne ne veut être berger. Et donc, beaucoup plus tard, alors que Moïse est devenu lui-même un berger, il pense que la trajectoire de sa vie, c'est « Bon, je pensais que j'allais sortir mon peuple peut-être d'Égypte, j'allais défendre mon peuple, il a tué un Égyptien, la catastrophe, il s'est poussé. » Puis là, finalement, il a accepté ce qu'il pensait de son sort, « Je vais être berger. » Il travaille avec un vulgaire bâton de berger. Puis Dieu lui dit, « Maintenant, tu t'en retournes en Égypte avec ce bâton-là. » Et voyez-vous l'ironie de la part de Dieu que Moïse se présente avec son vulgaire bâton de berger devant Pharaon, qui a le pouvoir des dieux dans ses mains. Et Dieu lui dit, « Non, non, le pouvoir n'est pas dans ton bâton, n'est pas dans tes dieux, mais le pouvoir est avec l'Éternel. » Et le pouvoir est avec celui qui est avec l'Éternel. Amen? Dieu est vraiment en train de les mettre au défi et il est ironique. Pharaon était un dieu aux yeux des Égyptiens. Puis il dit, qui est l'Éternel? Et Dieu lui dit, moi je peux prendre un vulgaire berger avec son bâton de berger. Et il va dévorer tous vos bâtons. Vos pouvoirs magiques ne peuvent rien faire contre moi. C'est intéressant, juste quelques versets plus tôt, Dieu va dire à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, laisse sortir mon armée, je vais sortir mon armée d'Égypte. C'est frappant, vous irez lire les versets qui précèdent, mais lorsqu'il parle de son peuple, il parle de son armée. C'est une armée de bergers. C'est pas une armée, tu sais, c'est une armée de bergers. Mais quand Dieu est avec toi, une armée, quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Et c'est littéralement ça qui va se passer. Ceux qui sont des bergers, un peuple de bergers, vont sortir d'Égypte avec la gloire, littéralement. C'est ce qu'on va voir dans les semaines à venir. Et donc, Dieu est en train de nous rappeler que tous les conflits, les situations qu'on vit dans nos vies, ça fait partie de quelque chose qui est plus grand, c'est un conflit cosmique. Vous avez ces familles-là, israéliennes, qui est des Hébreux qui sont en Égypte, qui sont esclaves, leur vie leur importe. Si tu avais été là, ta vie aurait été importante. De voir tes enfants et de dire, mes enfants vont faire quoi? Ils vont fabriquer des briques, ils vont être des esclaves comme moi, c'est ça leur destinée. Je veux dire, leur vie est importante, ce n'est pas juste des numéros, c'est des gens, c'est des êtres humains que Dieu a créés à son image. Et donc, lorsque Moïse se présente devant Pharaon, c'est une vraie personne qui cherche la destinée, qui cherche à améliorer la destinée de vraies personnes. Mais tout ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans la trajectoire de l'histoire de la gloire de Dieu, dans un conflit cosmique où Dieu est en train d'établir qu'il y a un seul Dieu sur toute la terre et qu'il n'y a aucun autre Dieu qui peut se tenir devant lui. Et ça nous rappelle à nous comme chrétiens que toutes nos vies, tout ce qui se passe dans nos vies, je ne dois pas voir les choses seulement avec mes yeux physiques. Je dois voir ce qu'il y a derrière. L'apôtre Paul va dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu as des combats dans ta vie, tu as des conflits au travail, à l'école, à la maison. Il y a des conflits actuellement, puis des fois, tu vois juste la personne qui est devant toi. Tu vois Pharaon. C'est ton Pharaon à toi, puis tu dis, « Dieu, frappe-le! » Non, tu dis peut-être pas ça, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Tu as des conflits. Est-ce qu'on a la sagesse, nous qui croyons en Dieu, de savoir que je n'ai pas à m'en prendre à la personne qui est devant moi. Je suis engagé dans une guerre qui est beaucoup plus grande que ça. Et donc, je dois voir Dieu dans cette situation-là. J'ai ce collègue de travail qui me tombe ses nerfs. J'ai appris qu'il y avait un accident de voiture. Il a fallu que je confesse que je n'étais pas fâché. Est-ce que je vois Dieu qui est derrière tout ça? Et j'ai la sagesse de dire, Seigneur, il y a quelque chose de plus grand que mes conflits humains. Puis je veux savoir qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation-là. Parce que c'est ça le message que Dieu est en train de dire ici. Il y a quelque chose de plus grand que toutes nos trajectoires de vie à nous, que tous les conflits que nous vivons, il y a un conflit divin qui est là. Et Dieu est en train de gagner cette guerre-là. Aie la sagesse de voir dans ta vie qu'il y a quelque chose de plus grand que toi et que ta vie est appelée à venir embrasser cette trajectoire-là, venir embrasser l'histoire de Dieu. Ça va changer énormément de choses dans les conflits que tu vis. Tu as quelqu'un, tu as un ami à l'école, puis ça ne va pas bien, toujours en train de tomber ses nerfs. Il y a quelqu'un dans la classe qui est toujours en train de t'écœurer. Aie la sagesse de voir que Dieu est là aussi derrière ça, puis Dieu est en train de faire quelque chose. Dans ton cœur, dans ta vie, au moins, si tu connais Dieu. Et demande-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Parce que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que tu reconnais dans les conflits qu'il y a dans ta vie qu'il y a un enjeu qui est plus grand que toi? Est-ce que tu as le discernement de voir ces choses-là? Dieu va continuer à écrire l'histoire de sa gloire. Parce que sa trajectoire, à lui, elle ne peut pas être arrêtée. Les trajectoires de nos vies peuvent être arrêtées par un paquet d'affaires, peuvent changer. Dieu merci, parce que des fois, on n'est pas sur une bonne trajectoire. Mais la trajectoire de l'histoire de la gloire de Dieu va continuer à s'écrire. Dieu va continuer à l'annoncer. Dieu va démontrer qu'il est le seul Dieu. Et ça se continue à travers toutes les Écritures jusqu'à la venue de Jésus-Christ, où Jésus-Christ va vaincre la mort, le péché, le diable. La trajectoire de la gloire de Dieu ne peut pas être arrêtée. Parce qu'il est le seul Dieu. Et c'est ça qu'il est en train de démontrer ici. Pharaon et tous ses faux dieux peuvent s'opposer à moi. Ma gloire va se manifester. Est-ce qu'on a la sagesse de discerner qu'on ne gagne pas à aller contre Dieu, toi et moi? Mais il y a deux trajectoires, comme j'ai dit au début du message. Il y a cette trajectoire divine, celle de Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Son serpent mange les autres. C'est lui qui va gagner à la fin. On connaît déjà la fin de l'histoire. On connaît déjà la fin, même quand Christ va revenir. Personne ne va pouvoir arrêter cette trajectoire de l'histoire de la gloire de Dieu. Mais dans ce passage, il y a des trajectoires de vie aussi. Et là, on peut se reconnaître, nous, puis on peut se positionner, puis on peut réfléchir. Ta vie et la mienne sont actuellement dans une trajectoire. Si tu penses à ta vie, là, ce qui se passe actuellement dans ta vie, qu'est-ce qui est devant toi pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années? Nos vies sont dans une trajectoire. Il peut se passer quelque chose qui change tout, là. Demain, je pense, moi, que je fais des vacances cet été. Je peux avoir un accident de voiture, puis je suis rappelé dans la gloire demain matin. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais en principe, si tu regardes ta vie, tu as une bonne idée où tu t'en vas. Et ça, c'est vrai en général dans nos vies. C'est vrai aussi en particulier dans nos vies. Je veux dire, maintenant, quand j'embarque sur la balance, je regarde la trajectoire, puis j'ai toujours tendance, si vous voyez que je joue avec mon bouton ici, c'est parce qu'il se détache facilement maintenant. Il ne se détachait pas facilement avant. Fait quand je vais sur la balance, je dis, il y a une trajectoire qui est en train de se prendre. Est-ce que je vais faire quelque chose pour changer cette trajectoire? Tu vois? Donc, même dans le particulier, il y a une trajectoire. Tu regardes tes finances, tu regardes tes relations, tu regardes tes amitiés. Il y a une trajectoire. Tu regardes comment va ton couple. Tu regardes comment vont tes relations avec tes enfants. Il y a une trajectoire qui est là. C'est vrai dans l'ensemble, c'est vrai en particulier. Nos vies ont une trajectoire. Et si je discerne, je comprends que Dieu est en train d'écrire l'histoire de sa gloire, j'ai le privilège de pouvoir décider si ma vie à moi, ma trajectoire à moi, va venir se marier avec la trajectoire de Dieu ou si je vais être en conflit. Et ici, on a l'exemple de deux hommes. On a Moïse qui a décidé d'embrasser la trajectoire de Dieu, littéralement. Parce que comme j'ai dit, Moïse puis Dieu, ça n'a pas commencé très, très bien. Au départ, Moïse pensait qu'il allait prendre les choses en main. Il a tué un Égyptien, ça a super mal tourné. Finalement, il s'est dit, « OK, je ne ferai rien de ma vie, je vais être berger. » Je veux dire, pensez-y deux secondes. Le gars, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Fait que, tu sais, c'est un Hébreu, mais je pense que lui, il a inventé avant tout le monde l'expression « il n'est pas né pour un petit pain ». Tu sais, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Fait que là, il sort un jour, puis il dit « OK, là, c'est le temps de… » On va ramener de la justice sociale ici, en Égypte. Il tue un Égyptien, ça tourne super mal. Il finit berger, tu sais. Puis là, il se dit « Bon, mais ça, c'est la fin de ma vie ». Dieu lui apparaît. Au lieu de dire « Ah! » Enfin, Eureka! J'avais pas compris, mais finalement, je n'étais pas tout à fait dans le faux. Tu sais, tu veux te servir de moi. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, tu es élevé dans la maison de Pharaon, tu es un Hébreu, tu te dis, peut-être que Dieu a des projets pour moi. Tu sais, elle était rendue berger. Dieu lui apparaît. Tu t'es et t'écoutes. Mais non, comment ça s'astine avec Dieu? Non, je ne suis pas le bon gars, finalement. J'ai déjà essayé une fois, ça ne marche pas. Et que ça va se passer longtemps comme ça, parce que chaque fois que Dieu va lui dire quelque chose, il va littéralement argumenter avec Dieu. Mais Moïse prend de la maturité, et à partir du chapitre 7, on trouve un Moïse qui n'argumente plus avec Dieu. En fait, lorsqu'il va argumenter avec Dieu, c'est pour défendre le peuple d'Israël. C'est vraiment intéressant. Il va aller à la défense du peuple d'Israël. Dieu va dire, « Tasse-toi, écoute, je suis plus capable. On va se débarrasser d'eux. » Le Moïse, non, écoute, c'est la gloire de ton nom. Tu es en train d'écrire l'histoire de la gloire de ton nom. Je veux dire, tu as réduit en poussière les dieux égyptiens. Tu ne peux pas faire ça, là. On est en train d'écrire quelque chose de beau, là. Je ne vous dis pas que Moïse ne va pas avoir des rechutes, hein. La fin de sa vie, il ne rentre pas dans la terre promise. Ce n'est pas parfait. Mais Moïse a choisi d'arrêter de débattre avec Dieu, d'argumenter avec Dieu. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où Dieu t'a montré ce qu'il veut faire? Tu connais Dieu, il dit, je suis en train d'écrire l'histoire de ma gloire, puis toi, tu es un enfant de Dieu, donc voici. Voici ce qui doit se passer avec dans ton rapport avec Internet, dans tes relations humaines, voici ce qui doit se passer dans tes finances, voici ce qui doit se passer même dans ta santé. J'ai un appel sur ta vie, je veux que tu serves, je veux que tu serves dans l'Église, je veux que tu ouvres la bouche pour annoncer l'Évangile. Peu importe, est-ce qu'il y a un domaine où tu te comportes comme Moïse qui dit, ouais, je sais que tu t'en vas là, Seigneur, mais tu permets-tu que je vais faire des détours, tu sais? On va venir à la même place, on se reparle plus tard. Moi, je vais faire des détours. Lorsqu'on trouve Moïse ici, Moïse fait ce que Dieu lui dit de faire. C'est quand même assez extraordinaire ce qui va se passer avec Moïse. La trajectoire de l'histoire de la gloire de Dieu va poursuivre sa course, quoi qu'il advienne. Qu'on soit obéissant ou désobéissant, ça ne changera absolument rien. Dieu va écrire l'histoire de sa gloire. Mais nous, on doit choisir si on va marier, si on va embrasser cette trajectoire-là en marchant selon Dieu. Et ici, on a l'histoire de Pharaon, qui est une histoire triste, c'est une catastrophe annoncée. Une histoire d'entêtement. Au verset 13, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Aaron était reconnu comme un dieu, je vous l'ai dit, en Égypte. Aaron, c'était comme l'homme moderne avant l'homme moderne. C'était celui qui était un égal des dieux. C'était un occidental avant les occidentaux. Tu sais, ces gens qui vivent sur la terre et qui disent « Non, Dieu, c'était bon pour les ignares d'une autre époque, on n'a pas besoin de ça. » On s'invente nous-mêmes. Personne ne nous a créés, on est un accident, mais un superbe accident. L'univers est tombé accidentellement en amour avec nous, puis a fait qu'avec plein d'accidents, je suis là, je suis beau, je suis merveilleux, puis personne n'a rien à me dire, il faut que je m'invente. Je dois me réinventer, je suis maître de ma destinée. Je vous dis, Pharaon, c'était un occidental avant les occidentaux, parce qu'il se prenait pour un dieu. Et donc, il va décider d'entrer en conflit avec Dieu. Et lorsque le serpent de Dieu avale les serpents de Pharaon, et lorsque l'auteur nous dit que Pharaon a endurci son cœur, c'est la fin de sa vie qui est annoncée. C'est la fin de la trajectoire de sa vie. On lit dans Exode 15, versets 11 et 12, dans le cantique de Moïse, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. » Ici, Moïse est en train de célébrer le fait que Dieu va faire refermer les eaux sur Pharaon, qui est en train de traverser la mer, et ses armées. Tu les engloutis comme le serpent de Dieu a englouti tous les serpents qui étaient là. On connaît déjà la fin de l'histoire. Et il revient à chacun d'entre nous de décider si ça va être ça la fin de notre course. Parce que Pharaon a entendu la parole de Dieu comme Moïse a entendu la parole de Dieu. Dieu a parlé à Pharaon et Dieu a parlé à Moïse. Puis je sais, il y en a qui vont me dire, comprenant mal ce que les Écritures enseignent là-dessus, ils vont dire, « Ouais, mais Dieu a déjà annoncé que c'est la fin, fait que, tu sais, Pharaon ne pouvait pas se repentir. » C'est pas comme ça que les Écritures présentent ça du tout. Puis si ça peut te rassurer, ton nom à toi, là, et le mien, Yannick Etier, n'est pas écrit dans la Bible. Fait qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire. Fait que Dieu connaît la fin de ton histoire, mais toi, tu ne la connais pas. Et toi, tu as des choix à faire. Moi, j'ai des choix à faire. Maintenant, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Moïse a décidé d'embrasser la trajectoire de Dieu. Littéralement, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé d'arrêter de débattre avec Dieu. Et il y a des domaines dans nos vies où on cherche à débattre avec Dieu, puis on se rend malheureux. Et on gagne tellement simplement à dire, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je vais faire le pas de foi, je sais que tu es Dieu. Et peut-être que toi, tu es à un endroit où tu dis, « Mais je ne le connais pas, ton Dieu. Qui est Jésus-Christ? Qui est l'Éternel? » Pour que j'embrasse sa trajectoire à lui. Et reste avec nous. Lis les Écritures, tu vas le découvrir avec nous. Ce Dieu merveilleux. Puis pour nous, chrétiens, on est là, puis je réfléchissais, puis je me disais, imaginez, Moïse a vu le buisson ardent. Il n'était pas devant Jésus-Christ, là. Puis il a changé sa trajectoire. Dieu est devant le buisson ardent, un Dieu terrifiant. Il n'est pas devant, il n'a pas vu Jésus-Christ. Et il a changé sa trajectoire. Toi et moi, on connaît l'histoire de Jésus-Christ. La trajectoire là, de la gloire de Dieu, de l'histoire de la gloire de Dieu, commence juste à s'écrire ici dans Exode. Toi et moi, on est tellement plus loin dans ce récit-là. On connaît la suite. Dieu continue à écrire l'histoire de sa gloire jusqu'à ce que son Fils vienne sur la terre, meure sur la croix pour nos péchés, ressuscite d'entre les morts. C'est ce Dieu-là que toi et moi, on rencontre lorsqu'on est chrétien. Et pourtant, Moïse, sans voir Christ, a pu voir sa trajectoire changer. Il a pu décider de marier la trajectoire de sa vie avec celle de Dieu. Puis un jour, Moïse a vu Christ. Vous vous rappelez de la scène dans le Nouveau Testament, la transfiguration? Lorsque Moïse et Élie apparaissent avec Jésus, c'est vraiment touchant comme passage. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va se préparer tranquillement à prendre le repas du Seigneur. Dans Luc, au chapitre 9, versets 28 à 31, on lit ceci. Environ 8 jours après, là je suis dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ne sont pas familiers, je fais un gros bond dans le temps. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, je vais vous le lire, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, c'est ça qu'on appelle la transfiguration, et son vêtement devint comme éclatante, d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Parlaient de sa mission. Il était en train de discuter. Moïse a vu Christ, hein? En fait, je pense qu'il l'a vu lorsqu'il est décédé puis qu'il est allé dans la gloire de Dieu. Mais là, il a vu Jésus de Nazareth. C'est quoi la conversation qu'il y avait? Ta mission, c'est d'aller mourir maintenant à la croix. C'est ça, ça va être ton départ à Jérusalem. Puis ils sont en train de discuter de ça. C'est quand même assez extraordinaire, n'est-ce pas? C'est quand même assez merveilleux. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Puis le repas du Seigneur est là pour nous rappeler que Dieu peut changer toutes nos trajectoires. Amen? Dieu peut changer toutes nos trajectoires. Tu regardes la trajectoire de ta vie et tu dis, c'est une catastrophe. Dieu peut changer cette trajectoire-là. Dieu est un Dieu de grâce. Il s'agit que tu rencontres une personne, Jésus-Christ. Il y a une dame que j'ai rencontrée la semaine dernière. J'étais à la maison de chambre sur le chemin Chambly, chez Lise. Puis je parle avec une dame, on va l'appeler Rose. Puis je ne pense pas que Rose a encore rencontré Jésus-Christ, mais je l'ai pris à cœur vraiment. Parce qu'elle me raconte son histoire, puis elle dit, « Moi, je vivais dans la rue, je consommais, puis j'ai rencontré Marilyn, une policière réseau. » Puis Marilyn, elle m'a dit, « T'es pas à ta place ici. T'es pas à ta place dans la rue. C'est pas toi, ça. » C'est vraiment touchant parce que Marilyn a su voir chez Rose qu'elle pouvait être ailleurs, qu'elle pouvait changer cette trajectoire-là. Puis quand Rose me racontait ça, elle était émue. Puis elle pleurait parce qu'elle disait, « Marilyn a sauvé ma vie. » Parce que je ne m'en allais pas dans la bonne direction. Puis je vous la présenterai, vous ne pourriez jamais deviner où elle était quelques mois plus tôt. Ce serait impossible. La dame est articulée, est intelligente, est toute là, est douce, est gentille. Jamais vous pourriez... Sa trajectoire a changé. Et là, on ne parle même pas de Christ. C'est juste un être humain qu'elle a rencontré. Mais ce qu'on célèbre lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est que c'est possible de rencontrer Dieu dans la personne de Jésus-Christ afin de changer la trajectoire de nos vies, littéralement. Quel que soit ton âge, tu peux avoir 13 ans, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 95 ans, ça ne change rien. Tu peux être Moïse ou tu peux être Pharaon. Ça ne change rien. Jésus-Christ est venu pour nous faire grâce, pour changer la trajectoire de nos vies. Et c'est de ça que Moïse est en train de parler avec Jésus sur la montagne au moment de la transfiguration. Il est en train de parler de sa mission, de son départ à Jérusalem. C'est quoi son départ? C'est sa mort sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, son ascension auprès du Père. Et c'est ça qu'on célèbre ce matin en prenant le repas du Seigneur. Je vous invite à prendre avec moi vos coupes. On a une vidéo en 25 minutes qui explique comment ouvrir ça. D'accord? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Demandez à votre voisin si vous ne savez pas comment. c'est un art. C'est un art. Après croire en Jésus, savoir ouvrir ça, c'est comme le test. Tu sais? Mais c'est quoi le repas du Seigneur? Avant de mourir, Jésus prend un dernier repas avec ses disciples. Puis lors de ce dernier repas-là, il est en train de célébrer la Pâque. On va parler de la Pâque. C'est tellement génial d'être dans Exode. J'ai hâte d'arriver là. On va parler de ça ensemble, la Pâque. Vous allez voir, ça va donner tout un sens au repas du Seigneur. Mais il est en train de célébrer la Pâque. Et puis à un moment dans le repas, il prend du pain, il prend du vin, il brise le pain, il en prend pour lui-même, puis il passe à ses disciples. Puis il dit, « Ceci est mon corps. » C'est une image de mon corps qui va être brisé sur la croix. Il va falloir que vous consommiez avec votre foi la croix. Il va falloir que vous croyiez en moi. Et ensuite, il distribue une coupe de vin, puis il dit, « Ceci est mon sang qui est versé pour le pardon de vos péchés. » Puis Christ est en train d'annoncer que toutes les trajectoires peuvent être changées. S'il y a un domaine actuellement dans ta vie où tu dis, « Je suis chrétien, j'ai cru en Jésus-Christ, je me suis fait baptiser, je prends le repas du Seigneur, mais il y a un domaine dans ma vie où c'est la catastrophe. J'arrive pas à croire qu'il y a quelque chose qui va changer. » Ça ne dépend pas de toi seulement. Ça dépend de la puissance de Christ. Amen. Et lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es pardonné de tes péchés et c'est lui qui vient donner cette vie nouvelle-là en toi. C'est lui qui s'en vient te transformer. Alors ce matin, je t'invite à prendre le repas du Seigneur humblement. Si tu es à un endroit où tu dis, écoute, je suis tellement là, je suis tellement béni, je suis tellement heureux. Je célèbre la grâce de Christ. Je vois qu'il a changé la trajectoire dans ma vie. Amen. Mais certains d'entre vous, vous êtes à un endroit dans votre vie où vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus que Dieu peut changer la trajectoire. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, pour se rappeler le sacrifice de Christ à la croix, jusqu'à ce qu'il vienne. Dieu va écrire l'histoire de sa gloire. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et on doit choisir chacun d'entre nous si notre trajectoire va venir se marier à celle de Dieu ou si on va être en opposition. On va prier ensemble et on va prendre les éléments. Seigneur Jésus, je veux te bénir ce matin. On veut bénir ton nom parce que tu es venu dans ta grâce fidèlement. Tu as continué à écrire ton histoire de Moïse à Jésus. Tu as écrit ton histoire. Personne ne pouvait t'empêcher d'écrire cette histoire glorieuse, Seigneur. Tu es venu, tu as été fidèle, tu as été ce fils fidèle et sans péché qu'Israël n'a jamais réussi à être et que nous ne réussissons pas à être. Toi, tu as été trouvé fidèle et tu t'es offert volontairement sur cette croix en sacrifice vivant comme la Pâque, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Sois béni, Jésus. Sois béni parce qu'à la croix, nous découvrons ta grâce. Nous découvrons que tu ne rejettes pas celui qui se tourne vers toi et qui dit, « Viens à mon aide. Viens changer ma course, Jésus. Viens changer la trajectoire de ma vie. J'ai l'impression que ma vie est une catastrophe annoncée, Seigneur. » Mais tu proclames à la croix que toutes ces trajectoires peuvent être changées par la puissance de ta grâce, Seigneur. Et moi qui suis chrétien, je célèbre chaque mois en prenant le repas du Seigneur, cette rencontre que j'ai faite avec toi, où tu m'as convaincu que je devais arrêter de débattre avec toi, mais simplement te soumettre ma vie, Seigneur. Sois béni. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles ici ce matin qui ne sont pas là encore, qui disent « Non, je veux écrire mon histoire moi-même. » Et je ne veux pas dépendre d'un Dieu qui voudrait diriger ma vie. Seigneur, accorde-leur la grâce de voir les faiblesses de marcher seul sans toi, en opposition avec toi, de voir combien il est ridicule en réalité de s'opposer au Dieu Tout-Puissant qui écrit son histoire. Donne-leur de discerner dans l'histoire de Pharaon qu'il vaut mieux choisir la voie de Moïse, Seigneur. Accorde-leur cette grâce que tu m'as accordée, Jésus. Sois béni. Merci pour le pain, merci pour la coupe, Seigneur, qui nous rappelle ton corps brisé, ton sang versé. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Prenons le pain. Prenons la coupe. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Sois bien présent dans nos vies, dans toutes les situations que nous traversons. Donne-nous de voir, Seigneur, derrière les gens qui sont là, les difficultés, les obstacles, de te voir, toi, Seigneur. Et de croire que tu es en train d'écrire une belle histoire par ta grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.